Bonjour et bienvenue sur Radio Rollist. Ceci est le numéro 4 et nous sommes en avril 2011.
Bonjour Cobal.
Bonjour Cyril, comment vas-tu ?
Ma foi, je vais bien.
Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce mois-ci ?
Eh bien, ce mois-ci, je vais vous parler de plusieurs jeux de rôle. D'abord, je vais vous parler de Tanga.
Oui.
Et puis ensuite, je vous parlerai de trois jeux qui ont pour point commun les dystopies.
D'accord. Donc, chers auditeurs, ceci sera notre premier dossier de fond. Et ce sera donc Cyril qui va se charger de cette lourde tâche.
Mini dossier,
d'accord. Oui, enfin, vu tout ce que tu as préparé, a priori, ce sera plutôt un gros dossier.
Bon, on va essayer de faire trop court, de ne pas faire trop long, parce que on voudrait pas que ça dure 2 heures.
D'accord. Donc, alors, tout d'abord, quelques news. Alors, tu te souviens de Dissident, le formidable magazine que tu nous as présenté il y a peu ?
Tout à fait, très intéressant.
Les gens qui font ce mag proposent une initiative que je trouve plutôt pas mal, ça s'appelle Le Fixe. Et c'est donc un petit recueil de news qui est en fait sous forme d'une newsletter un petit peu mise en page de manière sympathique et qui chaque semaine te donne le résumé de tout ce qui va sortir dans le commerce, ainsi que les dernières vidéos de Rollist TV. Bref, un résumé complet de toute la vie rolliste.
C'est quoi, c'est un PDF ?
Oui, c'est un petit PDF que tu reçois dans ta boîte.
C'est envoyé gratuitement ou...
Oui, tout à fait.
D'accord.
Voilà, c'est tout à fait gratuit. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc si vous aimez, comme moi, recevoir des news fraîches, je pense que vous pouvez aller sur leur site et vous y abonner. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre ? Ah oui, tout à l'heure, je vais donc traiter de Sweet Agatha, qui est un petit jeu sympathique de l'éditeur La Boîte à E, qui se concentre essentiellement sur les jeux indépendants. Et cette nouvelle maison d'édition va sortir bientôt un jeu que je trouve vraiment super bien et que nous traiterons probablement, qui est My Life with Master, dans lequel les personnage incarne un groupe de sbires d'un grand méchant. Donc ça peut être un sorcier, un seigneur du mal, quelque chose comme ça. Et donc c'est leur vie avec celui-ci. Donc nous le traiterons probablement lorsqu'il sortira. D'ailleurs, je te le confierai peut-être, tiens.
Oui, maître.
Sinon, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez écouté les premiers podcasts, mais j'avais fait allusion au fait que je souhaitais faire un espèce de portrait de famille de la gamme Yggdrasil, chose que je n'ai pas faite, ayant largement sous-estimé le travail que ça pouvait me demander initialement. Et d'autre part, je préférais attendre que la gamme soit complète. Or, j'ai justement appris dans le fixe que cette gamme va se clore avec trois autres suppléments. Donc un qui traitera de la vie dans la seule ville digne de ce nom, et deux autres qui seront la fin de la campagne.
Comment s'appelle cette ville, par curiosité ?
Ah, alors là, tu me poses une colle, je crois que c'est Uppsala, Usapala.
Uppsala ?
Oui, ça doit être ça. Tu connais ?
C'est en Suède ? Uppsala.
Ah bah probablement.
Je le sais parce que ma petite sœur a fait ses études à Uppsala.
Et elle devait boire dans des cornes et tout ou pas ?
Non. Elle était forcée bien sûr, elle est revenue, elle parlait plus français et elle partait parfois essayer de piller des monastères et de violer les femmes et les enfants.
C'est quoi comme type d'études ça ?
Ah bah on va au pays des Vikings ou pas ?
D'accord. Alors dernière chose également. pour nos amis outre-alémaniques, il existe un nouveau petit magazine, pourrait dire fanzine, qui s'appelle Swiss Med JDR, qui traite de l'actualité rôliste dans la Confédération. Mais j'en parlerai de manière plus approfondie grâce à une interview que j'ai faite lors de la convention Orchidée de Lausanne. Donc ce sera en ligne dans quelques temps, je ne sais pas encore quand.
Tu deviens le roi des interviews.
Eh oui, oui. Et voilà, donc vous pourrez en apprendre plus. Bien, passons directement à Sweet Agatha. Alors, Sweet Agatha, alors c'est un jeu qui se présente sous la forme d'une enveloppe avec une jolie photo de femme dessus, comme tu peux le constater. Et sous le titre, il y a quelque chose décrit dans une langue inconnue.
Avec un alphabet inconnu.
Et avec un alphabet inconnu qui est du Klingon ou je ne sais pas quoi. Et dans cette enveloppe, on trouve un petit carnet sur lequel nous sommes invité à inscrire notre nom. Et en fait, dans ce carnet, il y a tout ce qui servira à développer les parties. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des petits encarts avec des indices que tu vois là, donc qui sont des triangles découpés dans le jeu. Et c'est vraiment un jeu très étonnant. Alors, faut que je reprenne un petit peu les choses du début.
C'est un jeu de rôle déjà ?
Oui, alors c'est un jeu de rôle qui n'est pas forcément considéré comme tel. C'est surtout un jeu d'histoire, où on va raconter une histoire. C'est un jeu qui est prévu pour une à deux personnes, c'est-à-dire que tu peux même jouer tout seul éventuellement. L'un des joueurs incarne la vérité. C'est lui qui va choisir les indices parmi tous ceux qui sont proposés dans le jeu. Il va piocher dans les indices disponibles et il va en choisir, je sais plus, deux ou trois par scène. Et ce sera à l'autre joueur, celui qui joue en fait l'investigateur, car il y a investigation. Le titre du jeu, donc Sweet Agatha, ça pourrait se traduire par Agatha, la douce Agatha. Hein. Qui raconte donc l'histoire d'une femme qui a disparu et l'objectif du jeu est de savoir ce qu'il est advenu de cette femme. L'investigateur incarne l'un des rares amis de cette Agatha. Et d'ailleurs le début du livret est en fait le journal intime de ce personnage qui permet un petit peu de se plonger dans l'ambiance. Et dans la suite du livret, en fait, ce ne sont que des photos avec des phrases qui ont plus ou moins de sens et auxquelles on peut accorder une importance ou pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'indices possibles ou de photos qu'en fait, on peut vraiment faire partir l'histoire dans n'importe quel sens.
D'accord, mais alors là, j'ai une question. Est-ce que au final, il y a une histoire et le but est de réussir à bien interpréter les indices tout en écartant les fausses pistes? Ou alors, est-ce que la vérité vraiment dépend du choix des indices et qu'il faut la construire soi-même?
Oui, c'est cette deuxième solution. D'accord. En fait. Voilà. C'est on construit vraiment soi-même l'histoire en s'inspirant des images et des textes qu'on a sous les yeux. Et
on peut faire une première partie où elle a été agressée au Franprix et la deuxième partie, elle est tombée dans l'escalier jusqu'à la cave. En se basant sur des indices différents.
Oui, tout à fait, oui. Et j'avais entendu, je sais plus, hein, je crois que c'est dans le podcast de la cellule, de nos amis de la cellule, j'avais entendu que, par exemple, ils avaient inventé une histoire dans laquelle elle se faisait enlever par des extraterrestres. Donc tu vois, on peut faire vraiment des choses très diverses. Ça a quand même plutôt tendance à créer du mystère, si tu veux, dans le sens où tu as des plans cachés, où tu as des justement des textes qui sont écrits avec un code. Et je crois d'ailleurs que dans le livret, tu dois avoir quelques mots qui sont traduits de ce code et qui permettent en fait de les traduire vraiment.
D'accord, oui, ok.
Et donc d'obtenir ainsi des nouveaux indices et avec une situation que tu que t'auras pas vraiment inventé pour le coup, mais
ce que
tu vas vraiment
dis,
découvrir
enfin, je trouve
choses.
Ça très intéressant ce que tu me dis, ça me rappelle un petit livret au format Book of Nod qui avait été
ouais.
publié par White Wolf il y a quelques temps.
Du A5 en fait.
Oui, voilà, ouais. Assez petit, mm-hmm. Un peu comme Sweet Agatha. Et qui en fait était consacré à la gamme Demon the Fallen,
oui.
Et qui, mm-hmm. qui était censé avoir été écrit par Lucifer, je crois, quelque chose comme ça. Ça s'appelait Days of Fire, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être.
Oui.
Et où en fait il y avait à la fin de, en fait ça se présentait comme un agent du FBI qui avait rassemblé un certain nombre d'informations dont
oui.
certaines qu'il comprenait pas.
Mm-hmm.
Et finalement, il y a à un moment un message codé,
oui.
Et il y avait la clé pour le décoder à côté.
Voilà.
Et il y avait vraiment un côté très ludique.
Ouais, c'est ça.
À décrypter ça et puis ensuite à réaliser ce que disait le message.
Ouais, il y a ça et puis toutes ces photos qui sont plutôt jolies. Enfin. Très très mystérieuse en fait, qui incite vraiment à instiller une ambiance dans la partie, et il y a plein de choses notées dans tous les sens, des choses qui veulent rien dire en apparence, et donc on peut vraiment construire ce qu'on veut. Alors, pour construire cette histoire, en fait, ça se découpe en 10 scènes où on va jouer chacun son tour si on est à deux. C'est-à-dire chacun son tour, on va raconter une scène dans laquelle on poursuit cette enquête en utilisant les indices fournis par l'autre joueur et qui vont amener petit à petit à un dénouement. En sachant que y a un côté metteur en scène, puisque arrivé à la scène 8, il faut commencer à orienter clairement l'aventure de façon à lui donner un sens et un véritable aboutissement au moment de la scène 10. Et voilà, c'est vraiment un petit jeu très très inattendu.
Alors, juste oui à la scène 10 ou après la scène 10, est-ce qu'il y a une sorte de débriefing ou où ça s'arrête là, et finalement il y a un final à la scène 10 avec peut-être l'arrestation des extraterrestres dans la cave, je sais pas.
En fait dans la scène 10, tu vas dire ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à Agatha. Il y a quand même un sentiment de complétion, si tu veux.
Et donc à chaque partie, finalement, ça va être différent. Et
voilà, exactement.
Et on peut trouver, je sais pas, hein, sur Internet peut-être des gens qui racontent leur partie.
Oui, bah.
Ce qui est amusant aussi, c'est de voir ce que les autres ont pu inventer sur la base d'indices. Alors qu'on lit les indices dans le.
Oui, tout à fait. Bah, il est pas du tout impossible. Qu'il y ait des comptes rendus de parties, notamment sur le forum Silent Drift, dont j'ai déjà parlé, et qui fait partie des liens du site.
Sinon, juste, on pourrait peut-être ajouter que c'est en français.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Parce que...
Oui, mais c'est parce que la boîte à eux, donc, qui publie ce jeu, est un éditeur français.
Est-ce que c'est un jeu traduit ou...
Oui, c'est de la traduction.
D'accord.
Voilà. C'est écrit par Kevin Allen Jr., le jeu.
Ah mais oui, le fils de Kevin Allen.
Parce que tu connais.
Non, pas du tout.
Tu connais le papa du monsieur.
Non, pas du tout. Mais...
ça fait bien de dire « Ah oui !» Bon, donc voilà, si vous recherchez un jeu différent, qui avec vraiment une ambiance où ce qui importe le plus est la narration, puisque là il y a pas de dés, c'est juste de l'interprétation des indices choisis.
Est-ce que, mais dis-moi si c'est pas le cas, est-ce que c'est le genre de jeu que peut-être nos femmes et nos enfants et nos mamans apprécieraient? Parce qu'il y a un côté peut-être enquête policière, un genre qui
ouais,
beaucoup
ouais,
les lectrices notamment.
Ouais.
Et puis, y a pas d'orques, y a pas de trolls. C'est tout de suite un univers que peut-être, je sais pas. Hein.
C'est pas. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'une enquête, d'une véritable enquête policière, dans le sens où il y a pas de vérité prédéfinie, puisque oui. c'est nous qui la créons. C'est vraiment
ça nécessite une certaine créativité, un peu comme dans le Baron de Munchausen. Il faut vraiment aller de l'avant.
Voilà, exactement.
Faut pas se laisser trop mener par les événements ou.
Mmh. Il faut vraiment apporter.
Mais est-ce qu'un débutant, à ton avis, pourrait s'en sortir? Ou est-ce que c'est un jeu qui finalement requiert un.
En fait, je pense que pour un débutant, ça posera pas de problème parce que le livret aide beaucoup. Parce qu'il est bourré de photos, d'images, de sources d'inspiration, si tu veux. Tu pars pas dans le vide, en fait. Tu t'appuies sur ce que tu peux voir, dans le.
D'accord.
Dans le jeu.
En fait, c'est un concept très intéressant, mais là, il y a juste une histoire, il y a juste un ensemble d'indices et de photographies.
Oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être? Est-ce qu'il y a de. Je sais pas. Bob ou d'autres livrets sur d'autres thèmes ou...
Alors,
est-ce que c'est le début d'une gamme peut-être?
Non, je pense que c'est conçu comme un one shot et je crois pas que ce soit prévu, mais c'est vrai que l'idée est intéressante. Faire un Forgotten Cyril. Verrais des photos de toi petit.
moi ce que ça m'évoque un petit peu, enfin j'ai l'impression que ça a un petit peu une parenté avec les jeux pas les Murder Party mais les jeux où justement on essaie de trouver le meurtrier,
trouver
chacun
l'assassin,
voilà qui est l'assassin et puis on le sait pas forcément soi-même avant la fin.
Ouais.
Peut-être aussi ça peut avoir un petit lien avec je sais pas les chasses au trésor ou les jeux de piste qui sont populaires en ce moment.
Ouais, il faut être un peu
observateur et puis se lancer dans des théories ensuite. mais peut-être que c'est ça. Et
en fait, pour les adeptes des théories de la conspiration, c'est particulièrement idéal.
C'est un jeu, j'imagine, où on doit beaucoup vraiment discuter pour argumenter les mérites de chaque théorie.
Oui et non, parce qu'en fait, Et donc que c'est toi qui racontes la scène, tu l'inventes de bout en bout. C'est du moment qu'elle s'appuie sur les éléments fournis.
Même quand il y a deux joueurs, il n'y a pas de contestation possible, en fait, c'est ce que tu dis. C'est à partir du moment où quelqu'un dit « Ok, ma théorie, c'est qu'il y a cet indice-là, donc il y a cette conclusion-là », l'autre joueur qui détient la vérité, c'est ça, peut pas dire « Ah ben non, c'est pas ça ».
Alors, en fait... Le celui qui s'appelle donc le lecteur et la vérité celui qui joue la vérité, il va également jouer l'environnement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une aventure, c'est-à-dire ton personnage va faire des choses en recherchant Sweet Agatha. Donc s'il rencontre des personnages et qu'il a des conversations avec eux, ce sera la vérité qui jouera les personnages en question. Il y aura quand même un échange, si tu veux.
Oui.
Il sera pas tout seul à raconter dans son coin.
Oui, d'accord. Donc il pourra le mettre sur une direction ou.
Voilà, il pourra orienter ce qui se passe ou même ajouter de la violence ou du.
Ok. Je crois que ça, c'est clair.
Donc voilà, un petit jeu très très amusant qui peut être cool, je pense, à emmener en vacances et à
oui.
et à jouer avec des gens qui dotés de
ça donne envie d'une
bonne imagination.
Et ça coûte combien, dis-nous?
Alors le prix c'est 15 €. Donc tu vois, c'est vraiment pas cher et c'est un très joli petit bouquin.
D'accord.
Voilà.
Merci.
Et maintenant, si tu nous parlais de Tenga.
Alors, Tenga, mais qu'est-ce que c'est que ce nom-là? D'où ça vient? Eh bien, écoutez, c'est le nom d'un archipel peuplé de...
C'est pas plutôt une boisson à délayer dans de l'eau
Peut-être aussi, mais pas dans ce contexte-là. Non, c'est le nom d'un archipel qui est le foyer de la civilisation quelque part, même si on sait que au-delà des mers, c'est un vaste continent. C'est un archipel où vit depuis une petite éternité, une population assez diverse, mais unie par la langue et puis par une certaine vision de la vie. Et c'est actuellement un archipel déchiré par la guerre, avec plein de factions qui se disputent.
Mais c'est du médiéval fantastique ou?
Eh bien oui, eh bien non. C'est il y a du fantastique dans le sens où les kamis. Je me suis trahi. les kamis, c'est japonais. Ou les kamis, les esprits vivent dans la nature. En fait, voilà. L'introduction, c'était pour parler de Tanga, le nom médiéval visiblement du Japon.
D'accord.
C'est un jeu qui est consacré au Japon à la fin du XVIe siècle, à une époque où en France on s'égorge pour des histoires de religion.
Mm-hmm.
L'Amérique a été découverte. L'exploration est en train d'être faite et au Japon, on est loin de tout ça, même si il y a une petite, il y a déjà des intrusions d'étrangers, d'Européens qui sont venus exporter leur religion. C'est un petit peu quand même cliché de partir d'un archipel comme ça perdu en faisant comme s'il n'existait pas sur notre planète, parce qu'il est quand même, ça reste un pays qui existe et qui existait à l'époque. Le Japon, ce n'est pas un autre monde. C'est vrai que c'est un petit peu un cliché qu'il faudrait que j'évite. Le jeu, d'abord, vite fait sur l'objet.
Oui.
C'est un jeu qui est édité par John Doe, donc,
oui,
dont nous avons déjà parlé dans ce podcast, hein, qui fait quasiment 200 pages, un petit peu moins de 200 pages.
Uh-huh.
Qui coûte 29€ et qui est vraiment très très agréable à tenir en main.
Mm-hmm.
C'est un jeu complet, il y a besoin de rien d'autre.
D'accord.
Il y a à la fois les règles et le contexte.
Oui.
Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Alors, vite fait, je reviens sur le côté exotique du Japon.
Oui.
Mm-hmm. C'est quand même un monde, une société qui est très différente de la nôtre, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps.
Oui.
Et même à l'époque, il y avait un fossé
culturel.
Oui, culturel entre les Japonais et les Européens en tout cas.
Mm-hmm.
Mais là-dessus, autant on peut se dire que, par exemple, sur un jeu comme Pavillon Noir, un jeu de pirates, on peut se dire que nous avons été suffisamment éduqués par les films, par les histoires, l'île au trésor, etc., pour jouer des pirates sans scrupules. Autant on peut avoir une petite crainte à l'idée de
l'appréhension d'aborder une culture que finalement on ne connaît pas du tout, à moins d'en être féru.
Oui, alors si je joue un japonais médiéval, je vais faire que des conneries. Et au final, je serais pas content. Certains n'ont pas ces scrupules, ouais, et c'est tout à leur honneur. Mais on peut se dire, est-ce que j'ai bien fait le salut? Est-ce que je me suis penché assez bas?
Est-ce que j'ai bien préparé le thé dans lequel il faut arranger des fleurs?
Je me sentirais comme un con. Je suis pas Sean Connery dans le film Soleil Levant, là, fan de Japon. Bon, du coup, petite gêne potentielle, mais bien vite écartée par l'auteur, page 98, si bien noté, qui suggère de ne pas se frapper la tête avec la recherche de l'exotisme, mais plutôt de se rappeler que ce qu'on a en commun avec le Japon, les Japonais, c'est des situations fondamentales, quand même, telles que l'amour, la guerre, le fait d'avoir un travail, d'avoir une famille, une patrie. Et qu'on peut construire des scénarios, construire des aventures et construire de bonnes parties de jeux de rôle autour de ces histoires-là, de ces histoires de cœur, par exemple,
oui.
sans avoir à se préoccuper de, effectivement, est-ce que c'est logique de proposer de faire la cérémonie de thé à ce moment-là, ou est-ce que j'utilise le bon type de sabre, j'en sais rien du tout. Hein. Voilà. Par ailleurs, le bouquin me paraît vraiment bien documenté, à moi qui ne suis pas du tout un spécialiste du Japon médiéval. Je ne sais pas si on doit dire médiéval, d'ailleurs, ce serait peut-être plutôt la Renaissance, mais je ne sais pas comment il classifie l'histoire asiatique. Un Japon très bien documenté, et surtout une période visiblement très intéressante. Comme la France à cette époque-là, il se passe des tas de choses, et c'est vraiment un cadre... génial. Pourquoi j'ai dit la France à cette époque-là ? Parce qu'il y a un jeu de rôle français aussi sur la France au XVIe siècle, Tédéum, qui est vraiment aussi très bien documenté et un vrai régal.
C'est vrai qu'on pourrait faire une sorte de parallèle entre les deux, et des périodes charnières.
Et moi je dis, et Pavillon Noir, c'est un petit peu la période aussi. Moi je dis, on pourrait faire une espèce de
méta.
Imaginons des pirates qui enlèvent des protestants qui cherchaient à fuir la France. Et puis qu'il les déporte au Japon. Enfin, je sais pas, on va faire un truc, je suis sûr. Et puis ensuite, il y a les mêmes extraterrestres qui ont enlevé Agatha. On va faire un truc. Non, c'est vraiment très très bien documenté. C'est un plaisir. Je pense que peut-être la barre n'est pas mise au même niveau en 2011 qu'en 1985. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire du mal d'autres jeux, pas forcément non plus super bien. Paru dans le passé, mais...
Sur le même sujet, tu veux dire ?
D'une manière générale, je pense que ce soit graphiquement ou au niveau de la documentation, il y a beaucoup plus d'efforts qui est fait en 2011 qu'en 1990.
Ah bah, évidemment.
non, voilà, donc vraiment, je ne sais pas si l'auteur, qui s'appelle Jérôme Larré...
Brand,
pardon. A passé la
non,
moitié
c'est son pseudonyme Brand.
A passé la moitié de sa vie au Japon. Il vient peut-être du pays d'Ambre où il a pu explorer les différentes dimensions du Japon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant et vraiment, je le répète, un plaisir à lire. Alors moi je suis historien de formation, donc c'est toujours un plaisir d'une manière générale pour moi de lire un livre d'histoire, mais là, ce qui est super, c'est que ça rend l'histoire vivante. Quand on lit un livre d'histoire, trop souvent, ça reste
très figé,
parfois c'est vraiment pénible à lire,
parfois
c'est très très agréable à lire. Bizarrement, je trouve que les auteurs anglo-saxons sont beaucoup plus plaisants à lire, leur façon de dérouler l'histoire. Là, non seulement on a une approche un peu désuniversitarisée de l'histoire, décomplexée, enfin voilà, une approche vivante, une approche ludique, et qui nous met au niveau des gens de l'époque, puisque on va incarner un personnage dans Tanga.
On les voit pas du dessus, on est parmi eux. Quoi.
Oui, et ce qui est formidable, c'est que il y a ces personnages, on va pas les inventer si vraiment on les connaît pas, et donc il y a plein de prétirés. Donc vraiment, il y a de tout, des Mew malgré lui, Kabukimono, Kagemusha, bon, alors, mais sûr, ça veut rien dire comme ça, mais ensuite on le lit, on comprend. Samouraï chrétien, marin au long cours. Parfois, je vais essayer d'éviter de lire parce que je vais faire des grosses fautes de prononciation. Voilà, donc c'est un vrai plaisir à lire. Si vous aimez un tant soit peu le Japon, je suis sûr que vous allez apprécier ça. Si vous n'aimez pas, feuilletez quand même parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, bon, j'ai dit que j'aimais beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe au Japon au XVIe siècle ?
Voilà.
En gros, visiblement, dans l'histoire ancienne du Japon, ça a été plus ou moins unifié par un empereur.
Oui.
Mais la famille impériale, un peu comme en France à l'époque de...
Des guerres de religion ?
Non, des francs, là, des préfets du palais. Là. Ah, flûte.
Quoi?
les aïeux de Charlemagne.
Les trois fils.
Qui au temps des rois fainéants ont un peu pris le dessus sur le roi.
Ouais.
En gros, les premiers ministres sont devenus les souverains de fait et les rois ont perdu leur pouvoir.
Ouais.
Voilà, à l'époque des Mérovingiens, si je me souviens bien. Il faudrait que je révise quand même. Ça doit être au programme de la sixième. Enfin, bref, passons. Un peu comme en France à une certaine époque. Ou en Gaule. Au Japon, en fait, l'empereur a perdu son pouvoir et c'est le général qui, depuis des années, enfin des siècles, qui détient le pouvoir. Le général suprême, le shogun.
Oui.
Sauf que, dans les décennies passées, il y a eu de vastes conflits. Il n'y a pas vraiment un shogun. Enfin,
il y a des scissions, des.
Il y a des clans, en fait. C'est des clans qui. Alors. Je pense que peut-être une façon d'aborder la notion de ce que c'est un clan, c'est d'une part, ça doit avoir un peu le même sens qu'en Occident, c'est-à-dire une famille aristocratique
Oui.
Donc, qui défend ses intérêts, qui cherche à s'étendre. Mm-hmm. Mais c'est peut-être encore plus fort. Je sais pas si on peut aller jusqu'au clan qu'on trouve dans le jeu de rôle pour le coup vraiment médiéval fantastique, le livre des cinq anneaux.
Oui.
Où là, les clans sont comme des états. C'est vraiment ce qui structure vraiment la société.
D'accord.
J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu ça aussi. C'est-à-dire les clans sont vraiment... parce que le Japon n'est pas unifié, il n'y a pas d'État unique.
Oui.
C'est l'unité sociale qui a le pouvoir. Enfin, c'est la structure vraiment qui a le pouvoir. C'est les terres du clan, c'est les hommes du clan, etc. Alors, le clan le plus puissant, c'est le clan Oda. Et le boss de ce clan, mm-hmm. c'est Oda Nobunaga. Pardon. Ah, ils mettent des G, des N partout. Et donc c'est un homme très brillant qui est en train d'unifier le Tanga et qui semble ne pas pouvoir être stoppé. Il va de victoire en victoire. Bon, comme tout, je pense à peu près tous les grands chefs qui ont unifié des grands pays. C'est quelqu'un d'impitoyable.
Oui.
C'est
un peu le Napoléon local.
C'est un peu le Napoléon local, ouais, tout à fait. Ici, je ne mets pas de notion de bien ou de mal. Hein. C'est pas, faut pas forcément le voir comme un tyran ou ni comme un libérateur. Plus comme vraiment un conflit de pouvoir. Quoi.
Oui, oui.
Un clan qui cherche à s'étendre, enfin, son représentant en tête. Quoi. Et voilà. Donc, on en est là dans l'histoire, on en est au point où le Tanga est en passe d'être unifié, mais c'est pas le cas encore. Il y a encore des factions prêtes à se battre, il y a des résistances, voilà. Donc tout est possible, et c'est le parti pris du jeu.
D'accord.
Que je trouve très intéressant, c'est de dire « et si ?» trois petits points, et à vous de répondre. Voilà, à vous de faire suivre. On peut imaginer toutes sortes de situations. Le jeu propose de partir du groupe, de mettre en avant le groupe afin que les joueurs vraiment vivent une aventure commune. Et puis ensuite, libre à eux de déterminer le futur. Ça peut respecter un peu l'histoire, comme dans tous les jeux d'histoire. Hein. D'ailleurs, l'auteur avait fait une intervention dans le livre Jouer dans l'histoire, si je me souviens bien. Jouer avec l'histoire.
Jouer avec l'histoire.
Jouer avec
oui.
l'histoire. Bon, en gros, l'histoire offre énormément de liberté. Donc, on peut danser avec elle, mais c'est pas forcément pour autant qu'on va se laisser dominer. Enfin, il y a des choix à faire. Donc voilà. Après tout, bon, je suis en train de jouer à Civilization 5 en ce moment et je suis en train de mettre sa race à Oda Nobunaga. Avec Rome, donc on peut en faire ce qu'on veut.
Oui.
Et encore, bon, ça c'est des Américains, c'est un peu spécial. Mais voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de tensions narratives, on va dire, naît de l'opposition entre deux obligations. C'est une
oui.
société où en fait on est censé obéir à des règles. Voilà, on n'est pas, il n'y a pas la notion individualiste. C'est un peu un cliché encore une fois, mais qu'on peut avoir. En Europe, où elle s'exprime de manière différente. Un exemple très frappant, c'est il y a un mentor d'Oda Nobunaga qui n'arrive pas à le faire rentrer dans le droit chemin lorsqu'il est jeune, à lui inculquer la notion de peut-être de sa destinée, je ne sais pas.
Oui.
Et donc, il se suicide pour montrer sa protestation. Et voilà, j'imagine donc, qu'il y a un conflit entre, d'une part, le fait qu'il doit rester en vie pour faire son boulot et puis pour vivre. Et puis d'autre part, le fait qu'il échoue à sa tâche de faire entrer à la tête de son élève, quelque part, que voilà, c'est un certain nombre de choses. Et donc, suite à ça, Oda Nobunaga, change d'attitude.
D'accord.
Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Et ça nous amène peut-être aussi à un point de règle qui est très intéressant, c'est le fait que chaque personnage a un karma, une ambition, une révolte, des sortes de caractéristiques qui n'en sont pas, qui sont des à chaque fois une phrase ou quelques mots qui permet d'expliquer quelle est son sa vocation, son rôle dans la société et pourquoi pas de déterminer comment va finir le personnage. Donc par exemple pour cet homme, ça aurait pu être change la destinée du Tanga en changeant
L'attitude
de Nobunaga.
Uh-huh.
Euh, et mourir en est le prix quelque part. Voilà.
Oui,
et donc,
d'accord.
C'est ça fait penser voilà, enfin c'est des tensions très fortes. On en avait discuté, tu avais parlé de la tragédie grecque.
Oui oui, lorsque je t'ai passé le livre, j'ai à peine eu le temps de le survoler, mais c'est un point que je trouvais vraiment intéressant, c'est-à-dire le fait que l'ambition du personnage et finalement son destin on peut déterminer dès le début qu'ils seront opposés.
Oui.
Et aboutir à une situation d'un absolument tragique qui sera épouvantable, mais qui fera une très très belle histoire. Alors, est-ce que tu peux me confirmes que c'est
oui c'est ça tout ça, à fait. Alors bon, vite fait, on peut peut-être aller chercher quelques exemples. Exemple, un Yojimbo taciturne. Un Yojimbo, je crois que c'est un garde du corps.
Mm-hmm.
Alors, Karma élevait le fils de l'assassin de sa famille. Donc c'est son destin quelque part. Ambition, mourir au combat.
Oui.
Et la révolte, ce qu'il lance finalement dans l'aventure, c'est la mort de sa famille et de son seigneur. Donc voilà, on imagine le personnage tiraillé parce que voilà, il élève le fils de l'homme qui a tué son père et sa mère, par exemple.
Mais cela dit, il le sait pas forcément au moment où il le fait.
Alors un voyageur anxieux qui fuit un passé douteux. Et donc son karma, c'est payé pour son crime. Et son ambition, c'est refaire sa vie, quitte à devoir recommencer à tuer pour ça. Donc, on imagine le type qui cherche à fuir le fait qu'il a assassiné quelqu'un, qui s'en va, il essaie de refaire sa vie, il veut se ranger, il veut pas, voilà.
Ouais.
Mais il est démasqué et donc voilà, il va retuer. Et tout de suite, voilà, il y a des histoires qui naissent de ça, c'est formidable. Mmh. Voilà, donc les règles ensuite, bon, ce sont des règles, hein. Il y a, je les ai pas testées. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à la base, il n'y a pas besoin de jet de dés de manière générale. On a des compétences d'un certain niveau et en fonction de ce niveau, on parvient à faire les choses ou pas.
Oui. Uh-huh.
Ça, quelque part, ça t'accrédite l'idée que le cliché peut-être encore que c'est une civilisation où on vise l'excellence.
Oui. Uh-huh.
Et où on sait reconnaître peut-être quand on ne l'a pas cette excellence.
D'accord.
Donc voilà, les gens se rangent peut-être dans certaines catégories. C'est comme l'histoire de deux bretteurs qui se tiennent prêts à dégainer leur sabre.
Oui.
Mais à un moment, il y en a un qui reconnaît son infériorité avant même d'avoir dégainé. Ça, uh-huh. C'est ça que ça m'a évoqué. Je ne sais pas si ça fait partie vraiment du système de règles, enfin si c'est vraiment intégré.
Si ça a été pensé comme ça, mais c'est tel que.
Il y a aussi possible. En fait, de régler des situations en faisant intervenir la chance,
oui.
Avec des caractéristiques qui peuvent être testées,
mm-hmm.
Donc, avec des jets de dés. Donc ça, c'est pas entièrement sans dés, hein, pas du tout,
oui,
loin de là.
Oui.
Mais voilà, j'ai trouvé que dans une situation donnée, ça va toujours être le maître d'armes qui va tuer le débutant.
D'accord.
Voilà, il y a pas de question à se poser. J'ai trouvé aussi très intéressant le fait qu'il y a un équilibre entre les... les compétences de départ et
oui.
Puis le potentiel de progression. Et c'est quelque chose de très logique et qu'on devrait trouver dans tous les jeux. C'est-à-dire, c'est pas forcément logique que tout le monde soit pareil et 10 points à répartir. Voilà.
Oui.
Parfois, il y a des. Voilà, il y a le vieil homme, il a passé toute sa vie. Il a plein de compétences, il sait parler 10 langues. Simplement, il peut plus rien apprendre parce que, voilà, il a plus la vivacité d'esprit.
Uh-huh.
Voilà, son disque dur est plein. C'est fini. Alors que le petit jeune qui débarque, il a peut-être une ou deux compétences, il se débrouille un petit peu, mais c'est un livre blanc qui reste à écrire. Et
d'accord.
Donc, il va pouvoir acheter des compétences plus facilement, beaucoup plus facilement même. Donc voilà, c'est on a un choix à faire à la création, et je trouve que c'est très intelligent. Ça permet de choisir le type de personnage qu'on souhaite, quitte à en payer le prix pour la suite de la campagne. Je crois que c'était le but de cette règle.
Oui.
Et vraiment, je la trouve très intéressante et c'est quelque chose qu'on devrait trouver plus souvent ailleurs. En bref, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'y jeter un coup d'œil, de le feuilleter.
Et il est très beau en plus, il est très bien illustré.
Oui, et puis c'est agréable à lire. Et puis ça se lit vraiment comme un roman. Quand on voit la galerie des personnages, on visualise très bien. Alors, il faut un petit peu de temps pour rentrer dans l'univers des noms qui nous ressemblent. ne sont pas familiers. Hein.
Oui, il y a ça, c'est un. C'est
mais,
un
mais on y rentre, on y rentre.
D'accord.
Enfin,
d'accord.
À la lecture, voilà. Ensuite, bon, pour le, on va, je cache pas, hein, on va pas retenir le nom de toutes les provinces au bout de d'une lecture, mais c'est très intéressant. Le Japon a une civilisation extraordinaire, et je trouve que, enfin, j'ai découvert des choses très intéressantes en lisant ce livre. Ça donne envie.
Ça voilà. donne envie de s'y
ouais.
plonger.
Ouais.
D'accord. Bien, écoute, merci Cyril. Et bien maintenant, c'est à moi. Je vais te parler. Alors là, on change complètement d'univers puisque je vais te parler de Polaris. Donc Cyril, je vais te parler de Polaris et plus précisément de sa troisième édition qui est parue chez Black Book.
Polaris pour la troisième fois.
On avait dit qu'on arrêtait avec les blagues nulles.
Désolé.
Donc Polaris 3ème édition qui est paru chez Black Book. Donc c'est un jeu qui est plutôt ancien puisque la première édition est sortie en janvier 97. Et cette dernière mouture est particulièrement énorme.
Impressionnante, oui.
Ouais, c'est Black Book s'est fait une spécialité des livres gigantesques.
Parce qu'ils savent que les gens adorent ça. Enfin, ouais, on aime hein, quand on a un gros gros bouquin là.
Ouais. Avec énormément d'informations.
D'avoir un monde.
Donc, plus précisément, je vais me contenter des deux livres qui me paraissent indispensables, c'est-à-dire le livre de base, donc qui doit faire dans les 500 pages. J'ai pas regardé. Ouais, 430 pages. C'est tout simplement énorme. Donc il y a ce livre de base et un livre de taille équivalente qui regroupe 5 des suppléments parus anciennement 1 à 1.
D'accord, avec les caractéristiques remises au goût du jour ou,
Oui, avec...
bien reformaté comme il faut.
Avec un système complètement différent, etc. Alors, tout d'abord, il faut que je te parle un petit peu de l'univers lui-même.
De quoi ça parle, Polaris ?
Alors, de quoi ça parle ? Donc, c'est un univers, on va dire, post-apocalyptique. Donc, c'est-à-dire qu'il se déroule sur la planète Terre, mais sous l'eau. C'est-à-dire que dans un passé très lointain de cet univers, là, il y a eu un certain nombre de catastrophes dont on ignore tout et qui ont poussé l'espèce humaine à se réfugier sous les flots. Et donc à reconstruire toute leur civilisation là. Dans le passé mythique de cet univers, il y avait un vaste empire appelé l'Empire des généticiens, doté de technologies complètement folles avec des trouvailles qui sont bien supérieures à celles que dont nous disposons là maintenant, nous.
D'accord. En fait, on vit dans un âge sombre. On a beaucoup oublié, beaucoup perdu.
Oui, beaucoup perdu. Donc, cet empire des généticiens a fait quelque chose de très mal dont on ne sait pas de quoi il s'agit. Simplement, il est décrit... Il est considéré par les gens comme étant l'empire du mal.
D'accord.
Puis cet empire fut renversé par l'alliance Azur, qui a fini par détruire cette.
Un peu comme la rébellion contre l'empire dans.
Oui, un petit peu ça. Sauf que par la suite, cette rébellion s'est elle aussi cassée la gueule.
D'accord.
Et donc d'autres entités ont alors émergé, et dont celle dont font partie les personnages par défaut, qui est celle du culte du Trident. Les fondateurs de ce culte maîtrisent ce qu'ils appellent le flux Polaris, qui donne donc son nom au jeu, qui est...
Tu peux faire un parallèle avec Star Wars peut-être ?
Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à la Force. Donc qui donne des pouvoirs psychiques enfin en tout cas qui permet de maîtriser par le psychisme un certain nombre d'effets tout à fait réels. En sachant que ce flux polaris est également maîtrisé par des créatures aquatiques.
D'accord, mais à chaque fois des créatures vivantes, un ordinateur peut pas avoir le.
Non, voilà. C'est uniquement les créatures vivantes. Encore que cette force est extrêmement mystérieuse et pas très bien maîtrisée.
Oui.
On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ça fait partie des choses qui sont extrêmement qui font partie des mystères les plus profonds de cet univers. Donc, comme je le disais, les personnages sont dans la zone d'influence du culte du Trident, qui est un petit peu le l'ONU, on va dire, de cet univers. C'est-à-dire que l'espèce humaine a bien des problèmes, dont un particulièrement grave, qui est que elle est atteinte par un virus qui rend stérile. Et c'est la principale peur des nations sous-marines, c'est celle de l'extinction pure et simple de l'humanité.
D'accord. Donc l'humanité qui déjà n'est pas dans une situation géniale. Donc ils sont dans des stations sous-marines, ils ont oublié leur passé, ok, ils ont quelques pouvoirs psioniques, mais à part ça, ils sont tous en train de dépérir de stérilité.
De dépérir à petit feu. Alors bien sûr, ils ont... Ils essayent de contrebalancer ça par l'utilisation massive de tous les humains encore féconds.
D'accord.
C'est-à-dire ceux-ci sont mis dans des espèces de fermes d'élevage.
Mais alors, est-ce que c'est agréable? Parce que si vous êtes fécond, vous avez des super droits dans la société.
Non.
Non, en fait, c'est plus un peu comme les poules dans les batteries de poules chez nous.
C'est pas très loin de ça, effectivement.
Donc ce sont des états totalitaires, en fait, c'est ça?
Oui, la plupart des états sont plus ou moins totalitaires. Surtout sur ce point précis. C'est-à-dire que le traitement réservé aux femmes fécondes est particulièrement horrible, puisqu'elles sont en fait plus ou moins enchaînées à un devoir de reproduction qui va se poursuivre toute leur vie jusqu'à ce qu'elles ne soient plus capables d'enfanter, en sachant qu'elles vont subir des traitements génétiques permettant d'augmenter le nombre d'enfants qu'elles peuvent porter en même temps, ou d'augmenter la cadence, ou de...
D'accord, c'est horrible.
C'est vraiment épouvantable. Et également, par exemple, c'est un monde où on ne croise jamais d'enfants.
D'accord.
Car ceux-ci sont élevés à l'abri dans des centres. Et jusqu'à ce qu'ils soient en âge eux-mêmes de procréer. C'est-à-dire que si par hasard, parmi les enfants en question, il y en a qui sont féconds, ils n'en sortiront pas non plus.
D'accord, oui. Donc en fait, les personnes qu'on peut croiser dans les rues des stations...
Ce sont uniquement des adultes a priori stériles. Voilà. Alors pour reprendre un peu sur le monde, bon, faut quand même que je te décrive une cité sous-marine... parmi tant d'autres, donc qui est celle d'Equinox, celle où commencent les personnages, qui est en fait un peu un équivalent de la station Babylon 5 dans la série du même nom. C'est-à-dire c'est un peu une zone neutre où tous les...
Ou Deep Space Nine peut-être, dans Star Trek.
En fait, où tous les diplomates, les espions, les marchands, les affairistes vont se retrouver pour échanger des informations ou des coups de couteau.
Oui.
La station Equinox en elle-même, c'est une sorte de très gros D8 qui fait à peu près.
Il y a D8 face, mais voilà, vous êtes en face de ça, mais très
voilà,
très grand.
Exactement, c'est un D8 de 4 km de haut, donc construit avec des technologies qui appartenaient à l'Empire des Généticiens, donc on ne saurait plus construire de station identique.
Et c'est une station qui flotte.
Elle flotte entre moins 2000 et moins 200 mètres de profondeur.
Mais elle se déplace ou elle reste fixe?
Elle est à peu près fixe, en fait. D'accord. Elle est entre deux eaux, quoi, mais elle est à peu près fixe dans la zone où elle se trouve.
Excuse-moi, il y a combien de, pour donner une idée des proportions, il y a combien d'habitants avec Inox?
Je ne sais plus, mais ça doit être des centaines de milliers, je pense.
D'accord, donc c'est vraiment gigantesque.
Ah oui, c'est vraiment affolant, quoi. La vie dans une station telle que celle-ci est pas forcément rose non plus. En fait, c'est la station Equinox, c'est un peu comme un très gros sous-marin, c'est-à-dire avec les mêmes problématiques de manque d'espace. C'est un endroit où ça grouille de monde, où on peut quasiment jamais être tout seul et bénéficier d'un nombre de mètres carrés suffisant pour être être bien. La plupart des gens à la limite préfèrent aller dormir dans leur navire à quai qui bénéficie de plus d'espace que la station elle-même.
C'est un monde un peu vraiment à la Octobre Rouge enfin tous les films de sous-marins effectivement où on doit baisser la tête marcher.
En fait, c'est surtout en termes d'espace au sol que c'est limité. Par contre, en hauteur, il y a beaucoup plus d'espace.
Il y a plusieurs niveaux empilés.
Je crois qu'il y a une quarantaine de niveaux, quelque chose comme ça, qui sont empilés les uns sur les autres, avec le niveau. L'espace le plus grand qui est situé au milieu du D8. Et cet espace est celui où il y a tous les marchands, qui est un peu la place du village en quelque sorte. Et donc ces espaces sont couverts de petits magasins, de trucs comme ça. Les magasins font jamais plus de 9 mètres carrés. Donc ils sont tous collés les uns sur les autres. C'est bourré de passerelles en hauteur, de manière à optimiser au maximum le nombre de choses que tu peux mettre dans un même espace.
C'est quoi l'organisation politique? C'est, on va dire, un peu comme notre société, c'est-à-dire les gens font ce qu'ils veulent, ils louent une échoppe et puis ils deviennent marchands ou...
Alors, en fait, le type de gouvernement est une espèce de dictature bienveillante dans le sens où le but du culte du Trident, c'est vraiment de faire en sorte de trouver des moyens d'augmenter la population, coûte que coûte. Donc, toutes les entreprises de génétique sont les bienvenus. Donc c'est et que je te teste des produits pas sûrs sur des cobayes humains.
D'accord, la fin justifie le moyen.
Voilà, et tout ce qui peut aller dans le sens voulu par les autorités est autorisé et tout le reste est interdit.
D'accord. Il peut y avoir des répressions.
Si le besoin s'en fait sentir, ça ils n'hésitent absolument pas une seconde.
C'est le problème avec les environnements fermés, ça rappelle un peu Total Recall, le film où on coupe l'oxygène et puis on laisse les gens crever s'ils sont pas contents.
Voilà. Et par exemple, en cas d'épidémie d'un virus inconnu ou quelque chose comme ça, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent le niveau. Et après, d'ailleurs, je crois que dans l'historique de la cité, ça s'est déjà produit. Et en fait, ils ont incendié tout le niveau. Donc voilà, un univers très dur, avec peu de place pour les loisirs, en sachant donc que la vie de famille est désormais totalement inconnue. Il y a plus de notion de cellules familiales, ni de réelle communauté.
Mais les gens, à part ça, entretiennent toujours des relations amoureuses ou...
Oui, bien sûr. Enfin, ils peuvent, étant donné qu'ils sont stériles, de toute façon, c'est...
D'accord. Et que font les personnages, en fait, là-dedans? Ils s'occupent de maintenir la station ou alors ils sont indépendants?
En fait, il y a tout un tas d'archétypes qui sont proposés dans le livre de base. Donc, ça va de l'assassin en passant par la prostituée, le pilote de chasse en quelque sorte de petits navires de combat, le mécano, le chirurgien, le mutant, parce qu'il y a aussi énormément de mutations.
Et c'est reconnu, c'est désapprouvé ou...
En fait, ceux qui sont trop bizarres, évidemment, ils sont mal vus, c'est l'évidence. Il y en a aussi qui sont utilisés pour leurs capacités spéciales, parce que souvent les mutants savent faire des choses particulières, bah, du genre savoir respirer sous l'eau.
Ça peut être utile dans un monde où il y a que de l'eau autour de vous.
Ou savoir maîtriser le flux Polaris. En sachant que respirer sous l'eau, c'est bien, mais quand t'es à 2000 mètres de profondeur, la pression est telle que t'es écrasé aussitôt comme une noisette si tu sors sans combinaison. Donc,
Ah mais tu veux dire que dans les stations, la pression est celle de la surface?
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Okay. Mmh.
Oui, de toute façon, à partir du moment où tu as un espace où il y a de l'oxygène et.
Je sais pas, je sais rien en fait. Je suis pas spécialiste, mais je m'étais dit que justement pour éviter la pression contre les murs, quoi, peut-être qu'ils voudraient éviter ce genre de situation.
Et non.
D'accord.
Et en fait, c'est grâce justement aux alliages, aux hyper-alliages, je sais plus comment c'est expliqué, de l'empire généticien, ils ont pu construire quelque chose qui résiste à des pressions absolument gigantesques.
Donc la version locale de Ta gueule c'est magique, c'est
Ta gueule c'est généticien.
Ta gueule c'est généticien.
Alors, en sachant que cette civilisation a laissé beaucoup de les généticiens ainsi que les Azuréens, enfin l'Alliance Azur, ont tous les deux laissé des dépôts de technologie cachés un petit peu partout.
Des donjons avec des trésors.
Voilà. Et qui sont des sources de technologie inconnue. Ou même, des fois, ça peut être simplement des dépôts culturels. C'est-à-dire, tu vas retrouver tous les CD de Justin Bieber.
Et oui, il a survécu.
Non, pas forcément. Lui ou ses clones, ou je ne sais pas.
Ah, peut-être, en plus.
Sauf qu'ils font une chorale, même. Donc, bref, tu peux trouver à peu près n'importe quoi dans ces dépôts. Et de toute façon, ce sont des éléments qui sont forcément hyper recherchés par tout le monde. Et les différentes nations vont se les disputer. Alors, les différentes nations, et ce, sans compter les mercenaires, les pirates et tous ceux...
Parce qu'il y a des pirates aussi.
Ah oui, évidemment.
Ah oui, on est sous l'eau, on est dans la mer, il y a des pirates.
Comme dans tout univers marin digne de ce nom, il y a effectivement des pirates.
Donc, en fait, il y a des États qui ne s'aiment pas beaucoup, puisqu'il y a une sorte d'ONU qui essaie de faire tampon entre eux. Tout le monde a un peu cet héritage commun des généticiens et des azuréens. Tout le monde essaie de chercher peut-être les trésors technologiques de ces civilisations.
En sachant que chacune des nations en question n'a pas forcément les mêmes points de vue idéologiques sur ce qu'ils doivent en faire, sur leur but à long terme.
Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des civilisations qui ressemblent peut-être plus, j'en sais rien, aux États-Unis, d'autres à la Corée du Nord ou à l'Iran, pays gays et accueillants.
Je pense qu'il y a beaucoup plus de Corée du Nord et autres dans Polaris que d'États-Unis. Donc il y a une république qui est la République du Corail. Sinon, les autres, c'est plus ou moins des dictatures. En sachant que ça, ce sont uniquement les grandes nations avec toutes les stations qui en dépendent. Mais il y a aussi des centaines, des milliers de petites communautés qui sont accrochées dans une bulle d'acier entre deux eaux quelque part.
Comme des villages indépendants.
Oui, voilà, oui, un peu comme un village perdu dans les montagnes. C'est un peu l'équivalent. Alors, il y a vraiment une ambiance de space opéra, je trouve, mais en plus noir, plus sombre. C'est marrant parce que c'est à la fois plus sombre et plus violent, et en même temps plus vivant, parce que contrairement au space op où tu as une planète tous les 100 millions de kilomètres, là tu peux avoir plein de petites communautés situées un peu partout, et surtout tu as la faune et la flore,
la faune mutante gigantesque,
des requins géants qui peuvent manger un sous-marin.
Revenons à ces grandes nations. Donc tu as dit une république, il y a des états qui sont assez fermés. Tu parlais d'un monde relativement plus sombre qu'un monde de space opéra. Ces états sont la guerre. Est-ce que le village d'Alderaan a été détruit?
Rasé,
par...
Non, alors là, dans l'historique, si je me rappelle bien, c'est il y a eu des guerres, des grosses guerres, mais qui sont là plus ou moins arrêtées. Et s'il y a encore de la guerre, c'est soit une guerre larvée, soit juste de l'espionnage très intensif.
D'accord, c'est le genre de jeu où on peut s'attendre à jouer un espion ou à jouer un contre-espion ou être impliqué dans des guerres, peut-être plus guerre froide que James Bond ou.
Ça peut être les deux, parce que tu peux très bien être amené à faire des missions, parce qu'en plus, tu peux travailler pour des sociétés privées à l'intérieur de ces mêmes États, qui, elles, vont s'affranchir de l'autorité de l'État pour mener leurs propres affaires. Et donc, tu peux aller voler des secrets.
C'est quand même extraordinaire d'avoir trouvé le concept, je trouve, de ce jeu. C'est vraiment c'est un jeu de science-fiction spatiale,
Mais sous l'eau.
mais voilà, sous l'eau. Et en fait, ça change tout. Et en même temps, on peut tout de suite retomber sur des codes qu'on connaît, les pirates. On imagine très bien la cantina de Star Wars, pourquoi pas dans Equinox.
Ouais. Alors, sauf que là, c'est il n'y a pas de peuple extraterrestre. Donc, il y a les mutants, mais qui sont pas forcément une majorité. Mais à la base, c'est toujours des humains, même s'ils ont été un peu mutés ou quoi. Ça reste des humains. Donc voilà un petit peu un portrait rapide de ce que l'on peut trouver dans cet univers. Au niveau des règles maintenant, je pense qu'il faut vraiment aborder le sujet parce qu'elles sont extrêmement développées. Ce sont des règles, on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment complexes. Il me semble que c'est genre tu lances un des 20, un truc comme ça, tout est noté sur 20. Les malus, bonus, tout ça, c'est relativement facile à comprendre. Simplement, à peu près toutes les situations possibles sont envisagées et développées.
Je me souviens des règles de l'édition précédente
Oui.
qui étaient, pour le coup, considérées comme trop complexes par beaucoup de gens. Très, très, très compliquées, très précises. Voilà, très cérébrales, très simulationnistes, tout
Ouais.
simplement.
Bah là, en fait, ça, c'est toujours le cas dans le sens où elles sont vraiment hyper développées, mais elles sont simples. En fait, elles sont simples à comprendre. Simplement, moi, je sais que je pourrais jamais jouer avec ce système parce que je serais incapable d'en mémoriser le dixième.
Mais en réalité, je pense que c'est exactement la même problématique que pour Shadowrun.
Et alors, j'allais venir à ça. Moi,
Ah
ça
oui?
m'a fait beaucoup penser à Shadowrun. C'est-à-dire que c'est un du point de vue des règles, c'est très développé et il y a énormément de technologies. Là, il y a des pages et des pages de vaisseaux spatiaux, de vaisseaux spatiaux, qu'est-ce que je raconte?
Le sous-marin.
De sous-marins, voilà, de véhicules divers et variés, d'armures, d'espèces d'armures méca, un peu comme on en voit dans Alien. Donc, où tu as quasiment le nom du fabricant pour chaque
Oui, oui,
pour chaque truc, t'as des pages et des pages de matériel, c'est hyper impressionnant là. Il y a une profusion de matos c'est absolument délirant. Donc moi ça m'a fait vraiment penser à Shadowrun pour ça.
mais dans Shadowrun aussi, tu as des règles qui traitent de absolument tout, enfin, traitent d'énormément de situations possibles et variées, mais la base des règles n'est pas si longue que ça à
Oui,
absorber.
voilà, c'est
Et
ça.
ensuite, le reste, c'est bon, d'une part, ça vient avec la pratique, et puis d'autre part, t'es pas obligé de l'utiliser. Enfin, tu peux retomber sur la logique et sur tes quatre pattes comme ça,
Ouais.
Quitte à aller chercher dans le bouquin pour la fois suivante.
Ouais.
Mais je pense que c'est un peu la même problématique.
Y a des choses sympas qui ont été faites, notamment, il y a un élément qu'on retrouve par exemple dans le jeu dont j'avais parlé l'autre fois, c'est Final Frontier. Le fait que quand tu as des combats de navires, des combats de vaisseaux, chacun des joueurs peut être impliqué dans celui-ci. Donc, t'en as pas qu'un seul
Oui.
qui fait tout et les autres qui attendent les bras ballants que ça se passe. Ça, j'ai bien aimé. Ce qui frappe vraiment, en fait, c'est la quantité absolument délirante de tout.
Oui.
Il doit y avoir au moins une quarantaine de communautés différentes qui sont décrites, où tu as juste en quelques lignes ce qu'on y trouve, dans quel état c'est, quel type de gouvernement, voilà. Ça, sans compter le supplément d'univers qui contient donc là les grosses factions qui sont là, donc hyper développées.
Oui.
T'as du matériel à ne plus savoir qu'en faire.
Il
y a des cartes qui sont très jolies, donc en début et en fin de livre, donc, à l'intérieur de la couverture, quoi. Où tu as une carte qui montre les tout ce qui est sous-marin et une carte qui montre tout ce qui est en surface. Parce
oui.
qu'il y a plein de toutes les grandes nations ont des pieds à terre ou en tout cas des zones de recherche sur la surface pour aller
mais qui est paradoxalement l'équivalent de pour nous l'espace ou les fonds sous-marins, c'est un environnement très hostile.
Oui, un environnement
plus hostile que le
encore plus hostile oui. Si c'était possible avec donc les radiations tous les hommes en fait doivent protéger leur peau contre les radiations et contre les rayons du soleil et tout ça, plus les maladies, le fait qu'ils sont obligés de manger et de ne boire que des choses qui ont été au préalable filtrées ou en tout cas cuites d'une manière
oui.
spéciale. Bref, c'est un jeu qui est hyper massif de par la quantité de matériel qu'il propose.
Donc en fait c'est assez jouissif.
Ah oui, c'est vraiment un truc, quand tu as ces deux bouquins là, tu te dis bon, je peux jouer pendant 20 ans.
Et en plus, l'univers est décrit aussi dans les romans.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les effets des premiers romans, notamment celui sur la directive Exeter, qui était le premier sorti, je crois, les effets de ces romans ont été inclus dans le background des derniers événements.
D'accord.
Et là, ils continuent d'en publier, il me semble.
Les super soldats, c'était quoi ? C'était des super soldats. Ah, non,
je les ai pas lus, je vais peut-être les lire, ouais. Alors ne dis rien.
Pardon.
Donc voilà, il me semble qu'ils sont en train d'en publier des nouveaux.
Et c'est toujours Philippe Tessier qui l'a écrit ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc Philippe Tessier, donc, qui est l'auteur de Polaris, hein, qui a créé le
monde.
Qui a créé cet univers, qui
est l'auteur principal. Là, pour cette édition, les règles sont faites donc, par Raphaël Bombeil de Black Book, qui a fait un énorme boulot, qui a dû réadapter tous les véhicules, les trucs... les créatures au nouveau système de règles. Donc ça représente un boulot vraiment super impressionnant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
Tu parles des illustrations peut-être ?
Les illustrations sont les archétypes en couleurs sont vraiment très chouettes. Donc c'est les archétypes en question, en plus ils sont vraiment construits de A à Z, donc il y a juste à les prendre tels quels, ou alors on peut construire son perso bout par bout depuis le début. Ah, sur l'univers, cependant, il y a un petit truc qui m'a étonné et que je trouve bizarre en fait. C'est un univers où il y a quasiment pas d'art. C'est-à-dire, par exemple, il y a pas de musique.
Ah oui.
Ouais. Et ça, j'ai du mal à imaginer comment c'est possible.
Ben moi, je vais te dire comment c'est possible. Imagine que les généticiens n'ont pas pu sauver toute la musique du passé. Ils
oui.
ont juste pu sauver Justin Bieber. Et là.
Et
là, les générations qui,
oui.
qui... En fait, c'est la raison de la révolte de l'Alliance Azur.
Ah oui, c'est ça qu'ils ont
du
fait.
Du coup, il y a une espèce de tabou d'interdit.
Oui, voilà,
c'est ça la raison.
Et ils disent, non, on veut pas faire quelque chose d'aussi horrible.
Désolé pour le spoiler.
voilà, il y a quasiment pas d'art. Et d'autre part, il y a aucun média. Et ça aussi, ça me paraît un peu aberrant en fait.
Oui, mais si les sociétés finalement sont très contrôlées, c'est comme imagine t'es dans ton sous-marin soviétique et il y a quelqu'un qui veut jouer au journaliste. Ça te plaît pas forcément, non?
Alors oui, dans le cadre d'un sous-marin, évidemment. Mais dans une cité aussi, enfin dans une mégapole
oui, énorme,
telle qu'Equinox.
Oui.
Mais
c'est vrai que la musique, bon, ça paraît bizarre. Je pense, bon, un film comme Abyss, on imagine très bien les gens écouter la radio finalement
ouais,
sous l'eau,
ouais,
ça coule de source. Mmh. Et je sais pas, les médias en revanche, dans une ville relativement ouverte comme Equinox,
ouais,
pourquoi pas.
Ouais, ouais.
Mais après, en hégémonie, peut-être dans la République du Corail, mais quel genre de médias
Moi, voilà, je sais pas. Moi, c'est une feuille de chou, un truc. C'est une espèce de page de news ou un radio-rôliste.
Ouais. J'essaie de. Oui. Peut-être qu'en fait, le message, c'est que les gens n'ont pas de temps à perdre avec des conneries comme la musique ou,
alors, oui,
ou les news.
Effectivement, c'est un peu le message qui est donné, notamment pour ce qui est de l'habillement. Ils s'habillent qu'avec des trucs qui sont pratiques et utiles. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça, ni faut pas perdre un bout de tissu pour
mais
faire
quand
n'importe
même une
quoi.
Une caste de nobles, peut-être, ou des gens très riches.
Alors,
qui peuvent se
oui,
permettre de...
Après, tu as les castes les plus élevées de la société ont effectivement accès à des spectacles ou des trucs comme ça. Mais je trouve que de ce point de vue-là, il y a un petit truc qui colle pas. Moi, si j'étais amené à le maîtriser, je pense qu'il y aurait des médias. Parce que je vois pas comment on peut fonctionner sans, en fait. Voilà. Bon. Bon, ce petit point mis à part qui est vraiment anecdotique par rapport au.
Tu pourras peut-être négocier avec ton MJ l'introduction.
Ouais, ce point est vraiment anecdotique parce que le jeu est vraiment super chouette, il est bien illustré, gigantesque, voilà. Donc si vous voulez un univers sous-marin que vous voulez jouer dedans pendant 20 ans.
Oui, et je vois qu'il est pour le poids, il est pas si cher que ça.
Ouais, oui. Ouais, 50€ pour avoir 5 suppléments, ça fait 10€ le supplément. Au niveau quantité d'informations prix.
Et alors même peut-être pour les anciens amateurs de Polaris, mmh. Ça peut être intéressant donc pour le nouveau système et puis pour le côté pratique d'avoir tout
ouais,
en un.
D'avoir tout, d'avoir toutes les informations sous la main, ouais. Ouais.
Et donc il y a une évolution du background, tu l'as dit, ouais. Prenant en compte les premiers romans.
Les éléments des romans publiés. Eh bien maintenant Cyril, je pense qu'il est temps que tu nous fasses ce petit dossier sur les dystopies.